découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Cette émission vous est présentée par Pimo, le spécialiste de la santé mitochondriale. Pimo, prenez soin de vos mitochondries, boostez votre santé et votre vitalité.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Bonjour professeur.
Bonjour Fabrice, tu t'es remis de l'émission la semaine passée où ta juste déviance du gluten au point G nous a en fait amené sur un sujet qui n'était pas prévu.
Mais non, mais c'est ça qui est beau dans ces émissions et je l'écoute en boucle maintenant. Cette émission pour apprendre, hein, toujours, vous savez, j'ai bien compris que l'apprentissage était au cœur du développement et du développement personnel. Donc là maintenant, surtout sur des sujets aussi
absolument
intéressants pour notre santé, voilà, je ne m'en lasse pas de cette émission. Et donc on ne se lasse pas non plus de vos connaissances que vous partagez chaque semaine. On remercie notre partenaire sur ces émissions et le laboratoire Pimo, spécialiste de la santé mitochondriale, des compléments donc alimentaires adaptés pour la mitochondrie, mais également des purificateurs d'air, d'eau, voilà. Pimo que l'on salue bien bas, bien évidemment, et on essaie d'avoir toujours des partenaires en lien avec ces émissions, parce qu'on parle beaucoup de mitochondrie avec le professeur Vincenzo Castronovo, qui a d'ailleurs donné une masterclass sur NutriTV. Allez-y, la masterclass sur NutriTV. J'en profite pour faire un peu de promo, vous m'en veuillez pas, ne m'en veuillez pas, hein, professeur, mais hop,
non, justement, je pensais que c'était votre souhait et votre devoir
voilà,
de promouvoir ces masterclass que nous avons fait dans votre studio
et alors,
il y a quelques mois.
Exactement, hein. Donc cette masterclass est en trois volets. Suivez ces trois volets, c'est sur NutriTV, il y en a plein d'autres, hein, mais notamment celle-ci sur la santé et mitochondriale, la médecine mitochondriale. Et alors on a rajouté quelque chose, c'est que maintenant, une fois que vous avez visionné ces trois masterclass, il y a un petit quiz qui va valider vos connaissances et à l'issue duquel, si vous faites au moins 90% de bonnes réponses, eh bien vous avez un petit certificat. Voilà,
voilà.
Validé.
Et je pourrais dire que chaque volet ouvert vous apportera une lumière intéressante pour comprendre le rôle de la mitochondrie.
Exactement. Alors, la semaine dernière, nous devions parler du gluten.
Mais... Ben voilà, allez-y.
Oui, qu'est-ce qu'il veut interrompre les gens, cet homme-là? Il est tellement habitué de donner conférences, de parler... ça vous coûte hein, de laisser la parole. Ah, ça vous coûte. Hein.
Grave de chez grave.
Bon, voilà. Allez, je vous laisse parce que c'est votre émission. Vous ne pouvez pas nous parler du gluten, arnaque. Ou,
voilà.
Je pose les cadres. Arnaque ou vraie préoccupation de santé, c'est à vous.
Voilà, excellent. Voilà, quelle belle introduction. Enfin, voilà, c'est bien. Bon, ça me donne envie de vous laisser encore plus parler. Donc voilà. Alors, je trouvais que parler du gluten était tout à fait approprié lorsque... puisque nous avons parlé du tube digestif et que la première victime d'un excès de gluten chez certains patients, c'est l'intestin. Alors, qu'est-ce que le gluten? Le gluten, c'est un ensemble de protéines, okay, dans lequel avec plusieurs sous-unités, notamment la glyaline, la glutinine, etc. Ce sont des protéines qui se trouvent au niveau des céréales, ok, et qui vont, en fait, lorsqu'on va extraire l'amidon pour faire le pain, la farine, etc., donner des caractéristiques de palatabilité, c'est-à-dire ça va donner une mie extrêmement élastique, qui ne va pas sécher beaucoup, etc. Et donc, ça donne des qualités gustatives et donc de palatabilité, c'est vraiment l'ensemble, la mâche, etc., qui est intéressante au niveau goût, au niveau structure. Le problème, alors nous sommes normalement capables de digérer cette protéine. Je vous rappelle que la digestion d'une protéine, c'est transformer une longue chaîne d'acides aminés qui sont assemblés en collier, en simples perles, et que seules les perles vont être absorbées. Nous avons une capacité à digérer toutes les protéines normalement, pour autant qu'elles soient dénaturées, c'est-à-dire qu'elles ont été traitées avec la chaleur, traitées avec de l'acide, traitées avec du sel. Okay. Et c'est quoi dénaturer? Eh bien, normalement, la protéine, elle est pliée dans tous les sens, un peu comme un colique où il y aurait des nœuds. Et quand on va la dénaturer, eh bien, on va l'aligner, il n'y aura plus de nœuds, on va pouvoir rapidement enlever toutes les perles. Donc, ce qui se passe, c'est que si le gluten n'est pas complètement digéré, notamment la gliadine, une des protéines du gluten, eh bien, elle peut éventuellement avoir une réaction avec l'intestin via des récepteurs, des patients qui sont particulièrement intolérants, et donner une réponse inflammatoire qui va entraîner une destruction de la muqueuse intestinale qui va donc perdre ses fonctions d'absorption, qui va donner énormément de problèmes et qui va initier ce qu'on appelle le leaky gut et éventuellement la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui va entraîner la destruction de l'intestin qui va s'atrophier complètement et les patients vont être dénutris, ils vont perdre du poids, ils vont avoir mal au bidou, au ventre, etc. Donc c'est une maladie qui a été bien caractérisée pendant très longtemps. Depuis très longtemps, pardon. Et donc, on a même vu qu'il y avait des configurations polymorphogéniques qui faisaient que certains patients étaient beaucoup plus à risque de développer une maladie cœliaque. Ceci a conduit au concept que le gluten pouvait être toxique pour l'humain. Ce qui est vrai, c'est que le gluten peut être toxique pour une catégorie limitée d'humains. La plupart d'entre nous sommes équipés pour pouvoir digérer une certaine quantité de gluten. Donc, où est le problème? C'est que l'industrie agroalimentaire et les agriculteurs ont sélectionné des blés qui sont de plus en plus riches en gluten, ok? Et la quantité de gluten qui est présente aujourd'hui dans les céréales normales n'a rien à voir avec les céréales anciennes, mais vraiment rien. Okay. Et donc, on a même rajouté du gluten pour augmenter les caractéristiques de palatabilité des aliments, notamment du pain. Et ce gluten a été rajouté dans énormément de préparations. Okay. Et pour beaucoup de patients, même qui n'étaient pas prédisposés à développer la maladie cœliaque, le taux de gluten rajouté dépasse le seuil de capacité de digestion. Et donc, ces individus qui mangent beaucoup trop de gluten vont avoir des anomalies qui vont créer notamment le leaky gut. Et pendant longtemps, en fait, pendant très longtemps, on a parlé on avait une maladie cœliaque ou pas de maladie cœliaque. Alors qu'il y avait des patients qui, lorsqu'ils mangeaient trop de gluten ou les aliments enrichis en gluten, présentaient des symptômes qui peuvent être digestifs, qui peuvent être inflammatoires, immunitaires et même qui peuvent être neurologiques au niveau émotionnel. On peut avoir des syndromes d'anxiété, des syndromes de dépression qui sont liés au gluten et qui indirectement sont liés à l'inflammation. D'ailleurs, on verra tout ça. En quoi est-ce que aujourd'hui on sait que la dépression est souvent le premier mauvais, le premier point qui va déclencher la dépression, c'est l'inflammation intestinale. Mais ça, c'est une autre émission parce qu'elle est trop importante et elle permettra de comprendre et surtout de trouver les solutions éthiopathogéniques. Ça veut dire quoi, Fabrice, éthiopathogénique pour nos auditeurs?
Écoutez, ça veut dire qu'on va marquer une toute petite pause et on va retrouver cette définition avec vous dans un tout petit instant pour la suite. Merci de rester avec nous sur Nutri Radio.
Redécouvrez votre énergie cellulaire avec PIMO, le laboratoire spécialiste de la santé mitochondriale. Nos solutions agissent au cœur de vos cellules, là où votre énergie se crée, pour améliorer votre bien-être chaque jour. Avec une approche basée sur les recherches scientifiques les plus récentes, PIMO favorise naturellement la régénération cellulaire en prenant soin de vos mitochondries pour une vitalité et un équilibre retrouvés. Faites le premier pas vers votre renouveau dès aujourd'hui grâce à notre offre unique sur le marché. PIMO, l'allié de vos mitochondries pour une santé pleine de vie naturellement. La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Le professeur Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio. Ah, j'aime bien botter en touche comme ça. Vous m'avez pas eu, hein. Vous m'avez demandé ce que vous voulez dire. Éthiopathogénie.
Donc vous avez eu le temps d'aller voir pendant la pause ce qu'était éthiopathogénique. Donc maintenant, comme vous pensez m'avoir botté en touche, eh bien, je reviens en touche et essaye de me botter maintenant.
Alors, on parle quand même du gluten, on le rappelle. Et vous avez notamment précisé qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plus de gluten présent un peu partout qui a été rajouté et donc les personnes qui a priori devraient pouvoir le tolérer eh bien peuvent avoir des complications, donc c'est l'excès de gluten présent dans le blé notamment. Et vous me demandiez, Fabrice, vous qui savez tout, qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que veut dire l'éthiopathogénie, et je dis, mais oui, ça veut dire que voilà, ça vient du mot grec atia qui signifie cause, du grec pathos qui signifie souffrance ou maladie et du grec genesis qui signifie naissance ou origine. Je vous laisse vous débrouiller avec ça, mon cher Vincenzo.
Donc c'est qui est à l'origine, là, ce sont les racines du problème.
Okay. Voilà. Autrement
dit. Et donc en fait le problème c'est que comme la médecine est dogmatique et je dirais parfois binaire, c'est-à-dire on l'a, on n'a pas. Hein, par exemple, vous n'avez pas de carence en fer si vous n'êtes pas anémique, hein, ce qui est faux. Vous n'avez pas de carence en vitamine D si vous n'êtes pas ostéoporotique ou rachitique. Et vous n'avez pas d'hypothyroïdie si vous avez un taux de TSH au-dessus d'un certain niveau, ce qui est faux. On peut avoir des syndromes hypothyroïdiens alors que les paramètres sanguins qui ont été normalisés sont normaux. Okay, donc, encore une fois, on traite un patient, pas des statistiques. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, il y a eu quand même des mouvements et il a fallu du temps parce que le dogme, c'est quoi? Le dogme, c'est une notion qu'on croit être une vérité intemporelle. Et beaucoup en médecine, le dogme est omniprésent. Et même s'il est intéressant d'avoir certaines croyances et de garder des garde-fous pour ne pas aller dans des choses qui ne sont pas très sérieuses, je pense qu'il faut avoir cette humilité d'accepter que nous ne comprenons pas tout et que parfois, le patient, lorsqu'il présente des symptômes et qu'on ne comprend pas pourquoi, eh bien, et qui vous dit que si chaque fois qu'il mange du pain, il a ces symptômes-là, on peut appliquer, même s'il n'a pas de maladie cœliaque, on peut imaginer qu'il a un problème dû à l'excès de gluten. Et donc, depuis quelques années, on a identifié tous ces patients comme étant des hypersensibles non cœliaques au gluten. Donc, hypersensibilité non cœliaque au gluten est une réalité qui touche sûrement plus certains patients que d'autres et qui est essentiellement liée à cette inadéquation entre la capacité de digérer le gluten et la quantité qui est introduite dans le tube digestif. Donc, et qui peut varier. D'où, évidemment, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de gluten dans l'alimentation, mais ce qui est faux, c'est que tout le monde n'est pas sensible au gluten, mais tout le monde sera sensible à un excès de gluten. Okay? Comme tout le monde sera sensible à un excès d'eau. Vous devez savoir, hein, on pourrait imaginer, je vous raconte une petite anecdote parce que ça vous montre que même des choses qui paraissent anodines, okay, peuvent en excès devenir catastrophiques. Il y a quelques années, une étudiante française qui venait faire la médecine vétérinaire à l'université de Liège, okay, voulait se faire, il y a le bizutage, c'est-à-dire nous on appelle ça le baptême en Belgique, ce sont des épreuves que en première année les étudiants doivent passer pour être acceptés. Il y avait cette jeune fille qui voulait être baptisée, donc bizutée, faire partie de cette classe, et qui ne voulait pas boire d'alcool pour certaines raisons. Et donc les parrains, les parrains, les organisateurs ont dit ok, on respecte ça, mais chaque fois qu'il y en a un qui boit un verre de bière, parce qu'en Belgique on boit beaucoup de bière, et donc c'est des grandes souleries, que je n'approuve pas d'ailleurs, parce que souvent on a même certains étudiants qui sont en coma éthylique, c'est pas très raisonnable, et la fille devait boire 3 verres d'eau, au lieu de boire un verre de bière, et donc elle a bu tellement d'eau, qu'elle a dilué ses protéines au niveau de son plasma, et elle a fait un coma hyposmotique, c'est-à-dire que l'eau a fait gonfler son cerveau et elle a dû être hospitalisée, non pas en coma éthylique, mais en compression et en dilatation de son cerveau. Donc même un excès d'eau. Donc tout ça pour vous dire que vous ne pensez jamais que si vous buvez trop d'eau, vous allez risquer votre vie. Et bien donc, vous ne pensez jamais que si vous mangez du pain, mais avec un peu de gluten, vous n'allez pas là. Et bien certains, si vous en mangez trop, parce que vous avez cette hypersensibilité, vous allez risquer de déclencher un problème, parce que l'excès de gluten non digéré va créer un leaky gut. Bon, ce leaky gut qui n'a plus de secret pour vous, hein, Fabrice, rappelez un peu à nos auditeurs, c'est quoi un leaky gut? Montrez-moi, sans essayer de me bouter en touche, parce que j'en ai marre, hein. Ça suffit.
Mais non, évidemment, leaky gut, vous en parlez, vous en avez d'ailleurs parlé au début d'émission, cette hyperméabilité intestinale. Je voulais vous faire une question d'ailleurs sur le gluten et l'hyperméabilité intestinale, mais voilà, en gros, c'est un déséquilibre de la barrière intestinale, tout simplement.
Oui, c'est tout nouveau. En fait, comme je l'ai expliqué, l'intestin est tapissé par un épithélium, donc une structure qu'on appelle épithélium, dans lequel il y a des cellules qui, sous forme de briques, sont attachées les unes aux autres, ok. Et les portails qui les associent, donc les joints, vont pouvoir s'ouvrir ou pas, ok. Et elles peuvent s'ouvrir physiologiquement, pas longtemps et pas en grande quantité. Et chez certains patients, lorsqu'elles n'ont pas un bon microbiote, etc., eh bien, ces cellules peuvent être disloquées et créer des espaces qu'on appelle donc espaces intercellulaires par lesquels vont pouvoir rentrer des protéines non digérées, des bactéries, etc. Et le pire, c'est qu'il y a des bactéries gramoires qui créent ce qu'on appelle l'inflammation systémique de bas grade, qu'on peut mesurer en dosant dans le sang cette protéine, notamment la protéine qui va réagir à la présence qu'on appelle la LBP ou lipopolysaccharide binding protein. On en reparlera encore parce que c'est extrêmement important. Cette situation est à la base de la plupart des maladies chroniques et fait le lien entre l'intestin et ce qu'Hippocrate avait dit il y a 2400 ans, toutes les maladies commencent au niveau des intestins. Donc, on revient au gluten. Et moi, un de mes premiers, je dirais, succès en médecine nutritionnelle par rapport au gluten, parce que, si j'avais je dosais dans le sang les anticorps anti-IgG, IgG, donc immunoglobuline de type G, contre la gliadine et le gluten. Et j'ai cette petite fille, je me rappelle, c'est une petite fille pakistanaise de 12 ans, elle était toute en turbanée, et quand elle s'est déshabillée, ce n'était que des pustules de psoriasis goutteux. Et le papa venait parce qu'il avait entendu que je ne traitais pas avec des médicaments. La pauvre l'avait déjà mis dans le puva, donc un traitement extrêmement agressif avec des huées. Et sa vie était impossible, elle ne mangeait plus du tout de gluten. Elle mangeait beaucoup de pain. On n'avait pas identifié que c'était un problème de gluten. Et donc j'ai vu qu'elle avait un leaky gut, qu'elle avait des IgG au plafond pour le gluten. Et il avait été rapporté dans la littérature que 5% des patients psoriasis étaient liés au gluten. Et donc, cette petite fille, j'ai reconstruit sa barrière intestinale, j'ai rééquilibré le taux d'acide gras oméga 6 oméga 3 qui sera dans les émissions. Alors, je vous annonce déjà que les prochaines émissions, on va parler du gras, c'est-à-dire des acides gras, du cholestérol, etc. Je pense que c'est extrêmement important de revoir ça avec une vision santé. Et donc, comme ça, ça va nous prendre plusieurs émissions, évidemment. On va redéfinir c'est quoi l'acide gras, polyinsaturé, saturé, monoinsaturé, etc. Les huiles, quelles huiles choisir, etc. Donc, cette petite jeune fille, je lui ai supprimé le gluten. Et en un mois, sa peau est devenue magnifique. Magnifique. Et donc là, c'était le lien entre un excès de gluten et cette hypersensibilité qui avait créé ce problème de psoriasis. Mais il y a également beaucoup de patients qui sont déprimés. Et le syndrome des ovaires polymicrocystiques, une des causes importantes d'infertilité, qui sont directement liées au gluten. Pourquoi ? Parce que l'inflammation systémique de bas grade qui est liée au leaky gut crée un hyperinsulinisme qui va créer un trouble au niveau de la fonction ovarienne. Donc voilà, tout ça est lié, extrêmement intéressant. Donc ça peut... Alors le meilleur test, hein, c'est si un patient qui a des symptômes, c'est le test de l'abstinence. Il y a 3 protéines qui peuvent être impliquées dans des problèmes intestinaux chroniques, immunitaires ou psychoaffectifs. Ce sont les protéines de gluten, okay. Ce sont les protéines de blanc d'œuf et les protéines de lait. Et donc, ce qu'il faut faire quand on... Parce que même un test biologique négatif, l'absence d'anticorps, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici parce que ce sera un peu trop long, peuvent être faussement négatifs. Okay ? Donc, je dis toujours à mes patients, le meilleur laboratoire, c'est votre corps. Donc, si j'ai un patient qui a des spasmes coliques, okay, quand il mange normalement, et que je lui retire le gluten pendant un mois, et qu'après ce mois, il n'a plus de douleur abdominale, okay, alors que son taux d'anticorps anti-gluten était négatif, okay, et que s'il recommence, ça revient, je n'ai pas besoin d'avoir un test positif. Alors, il faut savoir également qu'on peut être intolérant, avoir une hypersensibilité au gluten ou pas. On peut ne pas en avoir, mais avoir une hypersensibilité à d'autres protéines du blé. Okay ? Et donc là, il faut bien réfléchir parce que parfois, c'est une hypersensibilité à une protéine du blé qu'on ne va pas retrouver, par exemple, dans le seigle, alors qu'on trouve l'équivalent du gluten dans la plupart des céréales. La seule céréale, Fabrice, qui n'a pas de gluten, c'est qui ?
J'en ai aucune idée, mais Vincenzo, vous me posez des questions.
Ben oui, mais voilà, vous m'avez dit que vous saviez tout. C'est le sarrasin.
Ah, voilà. Pain au sarrasin, ça c'est bon alors.
Le sarrasin, il n'y a pas de souci. Donc la farine de sarrasin, c'est pas de problème. Et aujourd'hui, il y a certains boulangers qui ont été recherchés des blés ancestraux qui ont très très peu de gluten, qui vont fermenter avec des levures spéciales ou du levain qui va diminuer très fort la quantité de gluten. Et ces gens qui ne pouvaient plus manger de pain, eh bien maintenant, peuvent en manger. D'ailleurs, je connais une dame qui est d'origine sicilienne comme moi, qui a été rechercher des céréales ancestrales de Sicile, et je suis sûr qu'elle pourrait venir en parler à la radio lors d'une des émissions, et vous verrez qu'elle fait du pain remarquable, qui est même utilisé chez des patients qui ont une maladie cœliaque. Donc c'est incroyable, donc remanger du pain de qualité, et qui a les qualités du pain que nos ancêtres mangeaient.
Alors, question par rapport, là on se dirige vers la fin de cette émission, mais c'est vrai que dès qu'on parle de gluten, de problèmes intestinaux, on a beaucoup de mails, notamment certaines personnes qui nous demandent est-ce qu'on peut, pour aider à atténuer hein, les effets de ce gluten, on peut avoir par exemple, on peut prendre des enzymes digestives spécifiques.
On peut, ça dépend, encore une fois, c'est une question de quantité. On pourrait imaginer, alors la première chose à faire, si on vient bien digérer les protéines, Fabrice, ça c'est une question où vous me répondez ou je ne viens plus à vos émissions,
C'est quoi la question ?
La première chose fondamentale à faire pour être sûr qu'on va digérer les protéines, c'est
mastiquer.
Ah ben voilà, donc je reviens la saison prochaine, bravo. Très bien. Mastiquer, manger des protéines pas après avoir été stressé, car on a vidé ses glandes syndiques, ok. Et donc voilà, et une fois qu'on a garanti la première étape de digestion, eh bien en effet, prendre des enzymes digestives peuvent être extrêmement intéressants pour réduire la quantité de gluten, gliadine intact qui arrive au niveau de l'intestin. Il y a également un test intéressant qui permet de voir qu'on a une hypersensibilité au gluten, c'est le dosage de la zonuline. La zonuline, c'est une protéine qui va être produite à l'excès chez certains patients quand ils prennent du gluten et qui est la clé qui ouvre ces portails qui gardent jointives les cellules intestinales. Okay ? La zonuline, vous avez déjà entendu parler de la zonuline ?
Oui, la zonuline.
Oui. La zonuline, c'est Alessio, c'est un pédiatre professeur d'origine italienne, évidemment, Alessio Fasano, qui est prof de gastro-entérologie pédiatrique à Harvard, rien que ça, okay, et qui a identifié la zonuline parce qu'il se demandait comment est-ce que le choléra était capable de pénétrer l'intestin, et on savait qu'il crée un leaky gut. Okay, et donc, il a vu que le choléra, le microbe du choléra, produisait une molécule qu'on appelle l'azote, zonula occludens toxine, la toxine qui ouvre la porte. Hein. Et donc, il s'est dit, s'il y a une serrure pour une clé que le germe pathogène a fournie, c'est que probablement, on a nous-mêmes notre propre serrure. Et donc, en utilisant des anticorps qui reconnaissaient l'azote, la toxine zonulaire occludente, eh bien, il a été pêché dans l'intestin une protéine qu'on appelle la zonuline. Et donc, finalement, c'est intéressant parce qu'on a d'abord découvert la protéine du virus ou du germe qui donne le choléra, okay, avant de découvrir la protéine que nous produisons nous-mêmes. Et donc, le gluten entraîne une production importante, il y a des hypersensibles non cœliaques au gluten, de cette zonuline, et c'est un test qui permet de pouvoir éventuellement affiner le diagnostic. On faisait savoir que les personnes qui sont hypersensibles au gluten sont plus à risque de maladies auto-immunes, puisque les maladies auto-immunes, dont on expliquera bien plus tard la genèse, l'origine de ces maladies auto-immunes. Et ce qui est intéressant, Fabrice, on va finir là-dessus, c'est que lorsque vous aurez compris le mécanisme de toutes les maladies auto-immunes, de toutes les allergies, ok, et qu'en ayant compris ce mécanisme qu'il déclenche, même s'il reste dans l'équation des inconnus, eh bien on a les éléments pour traiter de manière saine, sûre et efficace la plupart des maladies auto-immunes. On a des patients qui avaient la sclérose en plaques qui n'ont plus de symptômes, donc ils sont en rémission prolongée. Des patients qui ont des pathologies de Crohn qui sont en rémission prolongée. Donc en comprenant les fondations, la genèse, l'origine qui implique souvent l'intestin, on a des solutions éthiopathogéniques qui, même s'il y a des zones d'ombre, sont efficaces.
Voilà. Ça, c'est un super message, on y reviendra dans les émissions à venir. Merci beaucoup, cher professeur. Le retour de la musique, c'est tout de suite. On va se retrouver. Oui, professeur, vous
direz. Mais c'est un grand plaisir, Fabrice. Un grand plaisir.
Émission podcast.
On se revoit plus tard.
À réécouter tout de suite sur Nutri Radio. Elle est d'ores et déjà disponible. Et c'est le retour de la musique aussi.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.